Pierre Lévêque, la tyrannie ne disparaît pas avec l'époque hellénistique. Il en subsiste quelques formes, et même dans certains endroits, en Sicile par exemple, on assiste à des tyrannies qui ont un certain poids dans l'histoire de l'époque. Mais il faut bien dire que cette forme archaïque de gouvernement est de plus en plus concurrencée par une forme nouvelle qui est la monarchie hellénistique, et qui naît en gros, c'est l'après-Alexandre sur le plan politique, avec les diadoques, la partition de la conquête d'Alexandre en différents royaumes. Et c'est une forme de pouvoir que l'on ne peut pas éluder dans une problématique sur la tyrannie, parce que je crois que, faute d'avoir analysé cette monarchie hellénistique, on comprendrait mal certains aspects de la tyrannie romaine. Et surtout d'ailleurs dans ces formes extrêmes, vous faites remarquer dans l'aventure grecque qui vient d'être rééditée chez Collin, qu'un homme comme Trajan, par exemple, la façon dont Pline voit un homme comme Trajan est difficilement compréhensible si on n'a pas à l'esprit ce schéma de la monarchie hellénistique. Peut-être d'abord, Pierre Lévêque, quelques mots sur ces tyrannies qui subsistent encore dans le bassin méditerranéen, à droite et à gauche. J'ai parlé de la Sicile tout à l'heure.
Il est bien clair qu'un mouvement aussi important que la tyrannie ne va pas disparaître totalement, même s'il commence à s'effacer ou à prendre, sans doute, comme vous le disiez, une autre valeur. Je pense qu'à l'époque hellénistique, et il y a deux types de tyrannies qui peuvent être mentionnées. D'une part, dans certaines cités qui sont sous la dépendance extrêmement étroite, sous l'hégémonie d'un roi, il peut être commode pour ce roi, plutôt que de laisser fonctionner des institutions démocratiques ou aristocratiques, c'est-à-dire finalement la lutte entre ces différentes tendances, peut être commode donc de mettre à la tête des cités un tyran qui est responsable de tout, qui impose son autorité et qui par là prépare le chemin au roi. C'est une commodité qui a été largement employée, au moins dans deux grandes zones. D'une part, dans le Péloponnèse, c'est-à-dire en Grèce même, à l'égard du roi de Macédoine, et d'autre part, en Asie, dans l'Asie séleucide. Ça, c'est un type, en quelque sorte, nouveau de tyran. C'est le tyran qui est le relais de la puissance royale. Et quand je dis nouveau, il est bien certain que j'exagère, parce que ce que le grand roi perse avait bien souvent tenté, lorsque, donc, à la fin du VIe siècle, il dominait l'Asie mineure, c'était d'instaurer dans les cités des tyrans qui lui permettait de n'avoir pas trop à s'occuper des affaires intérieures de ces Grecs qu'il jugeait turbulents, qu'il était en fait, et dont le sort pouvait être ainsi remis à un tyran. Mais si on laisse de côté ce cas, je crois qu'il y a aussi quelques tyrans qui sont plus dans la lignée de la tyrannie archaïque, à savoir des tyrans qui s'appuient sur le peuple contre les couches dominantes, contre les aristocrates en particulier, lesquels ont tendance à imposer partout leurs lois. Simplement, il faut dire tout de suite qu'ils ne sont pas nécessairement reconnus comme des tyrans. Ils sont tyrans et rois. J'en donnerai très rapidement deux exemples. L'un qui est celui d'Agathoclès en Sicile, qui s'impose dans toute la Sicile orientale comme un tyran, donc allant jusqu'à massacrer tous ceux qui s'opposaient à lui, mais qui va finalement le pouvoir bien établi, le temps passant, être considéré comme un roi et prendre lui-même le titre de roi à un moment où bien d'autres ont pris ce titre à la fin du IVe siècle. Et un autre exemple pourrait être saisi, c'est celui de Sparte, celui du tyran ou roi Nabis à Sparte, un homme apparemment de très grandes intentions, qui, animé probablement par une philosophie stoïcienne, aurait voulu redonner à Sparte sa vigueur, sa verdeur, sa pureté passée. Mais il a pris le pouvoir en s'imposant comme un tyran, très durement, et ce n'est que par la suite qu'il a tenté toute une série de réformes qui devaient d'ailleurs finalement aboutir à pas grand-chose ou à rien du tout.
Alors, opposition à Rome, hein, c'est Nabis, c'est exactement. L'homme qui essaie de freiner la pénétration romaine en Grèce.
Exactement. Et a freiné à Sparte toute une partie de ceux qui, en somme, ne voyaient d'autre solution que dans la collaboration avec Rome. Mais si l'on pense à ce qu'est la tyrannie, si on veut la définir au minimum, si vous voulez, comme un régime qui est l'anti-nomos, c'est-à-dire l'anti-loi, l'anti-constitution, qui par conséquent jette par terre toutes les institutions traditionnelles pour exercer un pouvoir personnel. Il est bien certain qu'à l'époque hellénistique, nous avons des gouvernants qui exercent un extraordinaire pouvoir et dont la force de décision, les responsabilités sont énormes, sans commune mesure avec les tyrans archaïques, quels qu'ils soient, et que ce sont les souverains hellénistiques, comme on dit.
Alors comment sont-ils apparus? Ce type de pouvoir semble s'être forgé peu à peu, d'ailleurs un peu en fonction des régions et des circonstances. Et j'imagine qu'il y a quand même des facteurs assez généraux. Pierre Lévêque.
Oui, il y a des facteurs très généraux dans cette évolution. Et puis, il y a aussi toute une spécificité de chaque zone. Je pense qu'on peut partir de deux processus politiques de la plus grande importance. C'est, d'une part, le fait que ce soit Alexandre le Grand qui ait créé le type de monarchie hellénistique. Et puis, d'autre part, le fait que la conquête d'Alexandre, c'est la conquête de l'ancien empire perse, un peu plus. Alors, Alexandre, il est bien clair que par ses origines, par sa filiation par rapport à Philippe II, son père, il est roi de Macédoine, ou plutôt, comme on disait, roi des Macédoniens, c'est-à-dire qu'il exerce une monarchie de type national. Il est roi d'une nation, ça veut dire bien entendu qu'il ne dispose pas en théorie d'un pouvoir absolu, qu'il est soumis à la désignation de l'assemblée du peuple, de l'assemblée des Macédoniens, et qu'il doit rendre des comptes. Bon, naturellement, cette vue est une vue quelque peu idéalisée de cette monarchie tempérée, parce que justement, Alexandre était le fils de ce Philippe II qui avait tant fait pour renforcer la monarchie macédonienne et pour aller plus loin que ce caractère national qu'on lui reconnaissait. Si bien que dans sa conquête de l'Asie et de l'Égypte, Alexandre va d'une part être dans la suite de cette monarchie nationale des Macédoniens, et dans certains cas, c'est bien ainsi qu'il se qualifiera lui-même, Alexandre, roi des Macédoniens. Et ceci, il est bien clair que cela vaut essentiellement pour ce royaume héréditaire de Macédoine, qu'il a quitté pour la grande conquête, pour la grande aventure, et dans lequel il n'est jamais revenu. Mais en même temps, voilà qu'il s'en va être sensible à la totalité de ce qu'il pouvait y avoir de nouveau, de ce qu'il pouvait y avoir dans l'air, si j'ose parler familièrement. Et là encore, il faut distinguer. Il faut distinguer d'abord une sorte de monarchie hellénique, de monarchie en quelque sorte philosophique. Ce sont les Grecs du IVe siècle qui avaient peu à peu approfondi ce concept d'un roi qui s'imposait par l'ordre qu'il mettait dans la chose publique et aussi par les vertus qui étaient les siennes. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Par conséquent, un roi bon, vertueux, philanthrope, en se rappelant bien que le mot a un autre sens, beaucoup plus plein en grec qu'en français, philanthrope, c'est-à-dire ami de l'humanité.
Et presque philosophe, en somme.
Oui, ce que d'ailleurs Platon avait voulu faire lorsqu'il exposait sa théorie d'un tyran philosophe, et on sait évidemment quelle déception il avait eue de ce point de vue. Mais assez largement, pendant toute cette première moitié du siècle, c'est d'abord cette conception donc d'un roi philanthrope, d'un roi philosophe, qui est victorieux, car la victoire dès ce moment-là compte beaucoup dans la définition de cette monarchie, qui est victorieux parce qu'il est l'élu des dieux, et que comme tel, ses vertus se monnaient en victoire, à moins que ce ne soit ses victoires qui l'incitent à être plus vertueux encore. Alors ça, c'est une racine grecque dans le culte royal, beaucoup d'éléments, et les premiers éléments sont grecs, chronologiquement parlant. Bien entendu, il y a l'autre volet. Si Alexandre, très vite, par une espèce de perception très aiguë de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il voulait faire, il s'est très vite qualifié simplement de roi. Donc, pas roi de Macédoine, ni roi de n'importe quoi, roi d'Asie, alors qu'il avait pourtant conquis l'Asie. Sa titulature, désormais, est très claire. C'est Basileus Alexandros, le roi Alexandre. C'est ce que l'on a appelé une monarchie personnelle. Dans cette identification avec une sorte de roi abstrait, de roi victorieux et vertueux, il y a tout l'élément nouveau côté hellénique. Mais en même temps, en Asie, Alexandre a été en proie à des problèmes extrêmement graves. Nous avions en Asie une monarchie que l'on dit avoir été quelque peu branlante parce qu'elle s'est finalement assez vite effondrée devant le génie militaire et stratégique d'Alexandre, mais elle tenait quand même bien depuis des siècles. Et en plus, elle était dans la suite de ces monarchies orientales qui, par-delà le néo-babylonien, l'assyrien, etc., remontait jusqu'aux premières royautés sumériennes, donc remontait à une période très ancienne, celle-là même où s'élaborait la royauté sumérienne. Il y a une millénaire transmission, donc, de forme du pouvoir absolu dans cet Orient lui-même millénaire par les cultures qu'il a engendrées et qui pesaient de tout leur poids sur Alexandre.
Donc rencontre d'une autre tradition et d'une tradition qui pèse lourd. En
qui pèse très lourd, car dans son intelligence, Alexandre a parfaitement compris qu'il ne pouvait pas administrer l'Asie autrement que l'avait fait le grand roi. Ce qui était d'ailleurs dire autrement qu'en étant extrêmement souple, parce que la manière dont le grand roi perse avait administré les Grecs d'Asie, ou bien les Mésopotamiens, ou bien les Iraniens du plateau, ou bien tout à fait au bout ses sujets de l'Inde, elle était chaque fois entièrement différente, parce que chaque fois il y avait une tradition différente, et au-delà d'une tradition différente, il y avait des modes d'exploitation des travailleurs qui n'étaient pas les mêmes et qui supposaient donc des rapports sociaux entre le roi et son administration d'une part et d'autre part les travailleurs qui étaient entièrement différents.
Une sorte de décentralisation, j'emploie ce terme qui ne convient pas absolument, mais il y a chez les rois de Perse le sens aigu de ce qu'il faut décentraliser pour ne pas avoir d'ennuis.
Les grands morceaux ont été coupés, leur royaume, comme toujours dans des royaumes de ce type, eh bien, ils sont très clairs, ce sont les satrapies qui sont d'énormes morceaux, mais où le satrape fait en partie sa loi, non seulement parce qu'il lui laissait une grande liberté, mais parce qu'il a affaire à une matière humaine qui n'est pas toujours la même. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup reproché à Alexandre le Grand de s'être laissé aller à copier le grand roi, à se réfugier dans le fond d'un palais où il devenait inaccessible, transporter avec lui un harem de 365 femmes, à exiger de ceux qui l'approchaient la proskynèse, c'est-à-dire l'agenouillement rituel. Je trouve intéressant que les auteurs classiques qui ont écrit sur Alexandre, et dont on sait d'ailleurs qu'ils sont généralement assez tardifs, agissent tous avec des considérations morales. Ils disent c'est le moment où il est devenu fou, si j'ose résumer leur pensée. C'est le moment où il a été pris par la démesure, par cet hybris qui joue un tel rôle dans la pensée des Grecs. Et voilà pourquoi il est tombé sur d'extrêmes difficultés, mais en réalité il est bien clair qu'il ne pouvait pas faire autrement et qu'il était contraint d'être un grand roi au sens perse du terme, d'être le grand roi. Et il me semble qu'il y a une anecdote qu'il serait bon de rappeler en l'occurrence, c'est que pour sceller ses lettres, les rescrits qu'il envoyait au loin, car il n'a jamais cessé de s'occuper de l'administration de tout l'Empire, y compris la Grèce et la Macédoine, même lancée dans l'extraordinaire conquête que l'on sait, eh bien, il avait deux sceaux. Il avait un sceau pour l'Occident, si j'ose dire, qui était le sceau d'un roi de Macédoine, et pour tout ce qui avait trait aux affaires de l'ancien Empire perse, il avait récupéré le sceau de Darius, et il faisait sceller ses lettres avec le sceau de Darius. On voit bien la dualité de ce qu'il représente de la sorte. Si j'ai commencé par Alexandre le Grand, c'est que nous avons débrouillé toute une partie de notre histoire de cette manière. Parce que si nous en venons maintenant aux rois hellénistiques, ce qu'on appelle les rois hellénistiques, c'est-à-dire les rois des très grands royaumes, des Séleucides, des Antigonides ou des Lagides, eh bien, nous allons constater beaucoup plus dans le détail ou beaucoup plus en profondeur, parce que ces royaumes ont survécu pendant des siècles, tandis que l'épopée d'Alexandre a été comme un coup de foudre qui bientôt a disparu avec la mort brutale de son créateur.
Un feu de paille.
Feu de paille, c'est bien. Je pense que de ce point de vue, il peut être intéressant d'analyser, par exemple, on peut prendre les Lagides, parce que pour les Lagides, on a une énorme documentation de toutes sortes. Ils étaient plus écrivassiers que les autres, parce qu'ils avaient l'immense tradition des hiéroglyphes. Et puis, en même temps, il y avait le papyrus qui, dans les régions sèches de l'Égypte, se conservait, nous a conservé beaucoup de témoignages extraordinairement passionnants. Alors, de ce point de vue, il est bien clair que tous les rois Ptolémée, puisqu'ils se sont tous appelés de ce nom, d'abord sont les tenants d'une monarchie personnelle. Ils sont jamais dans leur titulature rois d'Égypte. Même si des historiens peuvent commettre cette inexactitude, ils sont toujours, par exemple, Basileus Ptolémaios, roi Ptolémée. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ils se placent dans la suite de notre Alexandre le Grand. Et puis, il est clair qu'à partir de ce moment-là, nous avons deux types de prestations. Premier type, c'est le type grec. Il y a toujours comme un souvenir macédonien qui est sous-jacent au type grec. Et nous avons donc le roi qui porte par exemple la kosia, c'est-à-dire le grand chapeau de feutre que portaient les rois macédoniens ou qui portent le casque macédonien. Ils sont entièrement voués au bonheur de leurs sujets. Et bien entendu, ils ont besoin pour cela d'une autorité absolue. Ils sont donc eux-mêmes la loi. Et peu à peu, dans les philosophes, surtout les stoïciens et les péripatéticiens, qui ont écrit des traités de la royauté, qui nous sont conservés, au moins en partie, nous voyons apparaître cette formule étonnante et qui, je pense, est extrêmement signifiante. Ils sont nomos empsychos, la loi incarnée, la loi vivante. Et bien entendu, il n'y a pas besoin de dire combien ils pouvaient à certains paraître scandaleux que le roi fût lui-même la loi, puisque la loi, le nomos, c'était justement pour les Grecs, et c'était le fondement même de la politique grecque, l'expression de la volonté de la communauté tout entière, et pas d'un homme.
Et d'autre part, ce roi, il est plus ou moins assimilé à Dieu, il est lui-même un Dieu, et vous citez quelque part un homme qui dit « Les dieux sont absents ou ils n'ont pas d'oreilles, mais toi, tu n'es pas de pierre, tu es là bien en chair. »
C'est un texte passionnant que vous évoquez. C'est un texte qui concerne Démétrios Poliorcète, c'est-à-dire le fils d'Antigone, le borgne, le grand diadoque. Et on est à Athènes vers 307. Les Athéniens viennent de se remettre à Antigone et à son fils. Et c'est alors qu'apparaît cet hymne qui a été chanté à Delphes dans une cérémonie, mais qui a été composé au nom des Athéniens par un poète athénien et qui dit exactement à Démétrios, « Toi, tu n'es pas en pierre et en bois. » Quelle impiété! Mais tu es là présent et nous t'adorons. Ça me paraît extraordinaire. Et il faut peut-être revenir d'un instant sur le problème de la victoire, parce que c'est l'autre face, inséparable, comme les deux côtés d'une même réalité, du roi vertueux. Le roi est un être qui est par essence victorieux, d'où le fait que, évidemment, quand il y avait des fêtes dans ces luttes constantes, il fallait essayer de les cacher le plus possible, de les couvrir d'un manteau de protection, si j'ose dire. Alors ça, c'est très net de voir que, bien souvent, il porte des surnoms qui sont tirés de Niké, Niké, la déesse de la victoire, Nicéphore, par exemple, porteur de victoire, ils sont porteurs de victoire. D'où le fait qu'une partie très importante, capitale, dans la documentation hellénistique, est faite de glorification des victoires du roi, qu'il s'agisse de textes littéraires, qu'il s'agisse de textes papyrologiques, qu'il s'agisse d'œuvres plastiques, des inscriptions, des statues, des bas-reliefs, etc. Le roi, c'est le victorieux. Mais alors, si on regarde maintenant l'autre côté de la même réalité, c'est-à-dire le roi Pharaon, on constate que les rois grecs ont eu, par la même nécessité dont je parlais tout à l'heure à propos d'Alexandre le Grand, ils ont eu le besoin absolu de se faire reconnaître comme des pharaons. Il y a donc un phénomène de pharaonisation, si j'ose ce néologisme, mais qui est absolument capital. Il apparaît au fond dès le premier des Ptolémées, des Ptolémées Sauter. Il apparaît clairement que déjà dans la stèle du satrape, à un moment où il n'est pas encore roi, où il n'est encore que le satrape, qui continue à administrer l'Égypte comme Alexandre lui en avait donné la mission, il est qualifié de sa majesté et qu'il est considéré comme un dieu du panthéon égyptien. A fortiori, naturellement, avec le règne de son fils et successeur, Philadelphe, lequel va pour la première fois être couronné à Memphis, c'est-à-dire recevoir tous les rites qui font du pharaon non plus un homme mais un dieu, qui le munissent en quelque sorte du fluide vital qui est dans le dieu Horus et qui lui donne par là même le droit de régner sur l'Égypte, d'administrer la terre d'Égypte et de posséder la terre d'Égypte. Il est certain que c'est un phénomène extraordinaire et à partir de ce moment-là, nous voyons des inscriptions, nous voyons des stèles, nous voyons des statues qui représentent le pharaon avec généralement son épouse et ils sont vraiment traités en pharaon. Et là, l'iconographie nous est intéressante parce qu'elle nous permet de suivre le processus. Car il y a toujours deux fois tel roi en Égypte. Il y a le roi à la grecque, qui est considéré simplement comme un homme très bienveillant, intelligent, etc. Et puis, nous avons le pharaon, qui est entièrement habillé à l'égyptienne, et pour qui on emploie les formules classiques dans la pensée religieuse des Égyptiens, et qui en particulier porte, et c'est Philadelphe qui l'a porté pour la première fois, ce qu'on appelle le cartouche des cinq noms, grande gloire, ami d'Amon, etc., les cinq titres qui définissent un pharaon. Et il me semble que cette opposition est fondamentale. Elle est fondamentale, mais bien entendu, comme finalement la manière dont on peut évoquer la grandeur d'un homme ne supporte pas tellement de possibilités, on retrouve des traits qui sont les mêmes. Et on a bien remarqué que si l'on prend dans une main un texte fameux du poète Théocrite, l'Idylle 17, où il chante la gloire, justement, de Philadelphe, et si l'on prend des textes égyptiens, en particulier la stèle du satrape en l'honneur de son père, on trouve que ce dont on loue l'un et l'autre, c'est au fond la même chose. Il est victorieux, il réalise toute la prospérité pour le pays, et enfin, il aime, honore les dieux et construit pour eux des sanctuaires.
Pierre Lévêque, deux mots peut-être, puisque demain nous parlerons de Rome. Vous faites remarquer que Antoine et Cléopâtre se rattachent directement à cette tradition.
Il est bien clair que Cléopâtre a beaucoup joué. Elle en avait tous les moyens, j'entends les moyens idéologiques, étant donné qu'elle était dans une tradition égyptienne qui n'avait cessé de se renforcer au cours des siècles de l'histoire hellénistique chez ses rois grecs, dont le côté oriental n'avait fait qu'augmenter. Elle a sans doute facilement plaidé auprès d'Antoine pour que lui aussi devienne un dieu. Et de manière étonnante, d'ailleurs, elle est la nouvelle Aphrodite, il est le nouveau Dionysos. Étonnante parce que Aphrodite et Dionysos ne sont pas liés par les liens de l'amour. Mais à eux deux, ils exploitent en quelque sorte un très vaste champ idéologique. Et on voit bien qu'à Axiome, dans la bataille finale qui a opposé les rois égyptiens à Octave, eh bien c'était, comme le dit d'ailleurs Virgile, dans un passage fameux de son Énéide, c'était d'une part tous les rois monstrueux de l'Orient, tous les rois animaux de l'Orient qui étaient d'un côté, et de l'autre côté c'était ce qu'on pourrait appeler la raison humaine avec lui et ses légions.
Merci Pierre Lévêque, et je conseille vivement la lecture de L'Aventure grecque qui vient de reparaître chez Armand Colin.
Le Bréviaire des Tyrans par Roland Gay, avec la participation de Pierre Lévêque. Réalisation Arlette Dave. Demain, il sera question de Sylla, vrai dictateur et faux tyran. Vous écoutez France Culture, il est 8h57. À 9h05, après le journal, La science et les hommes, la dynamique du billard, une émission de Stéphane Delisgeorges, avec la participation, entre autres, du mathématicien Raphaël Touati. À 10h30, Clé de soi, je vous rappelle que c'est le plasticien Alain Solonovitch qui est l'invité cette semaine de Georges Léon. À 10h40, Les chemins de la connaissance, le savoir démesuré, les érudits, par Louis Smizon. Seront évoqués aujourd'hui les jésuites, érudition et pédagogie. À 11h,